Bonjour Smaïn Lacher.
Bonjour.
Vous publiez « Croire à l'incroyable », un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile chez Gallimard. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on commence avec l'actualité. Puisque les agents de l'OFPRA sont arrivés à Valence, en Espagne, ils vont commencer aujourd'hui à auditionner les migrants de l'Aquarius. On dit que la moitié d'entre eux souhaitent venir en France. Qu'est-ce qui les attend? Quel genre de procédure d'étape attendent ces migrants?
Alors, c'est pas la première fois que l'OFPRA va à la rencontre de demandeurs d'asile en dehors de la France, la Grèce, l'Italie, le Moyen-Orient. L'OFPRA a délégué une dizaine d'officiers de protection à Valence. Ils vont faire des entretiens et probablement qu'une grande partie des 300 personnes qui vont faire l'objet d'entretiens vont obtenir l'asile. S'ils obtiennent l'asile, eh bien, ils seront embarqués de nouveau, mais cette fois-ci pour de bonnes raisons pour la France, et ils n'auront pas à faire de recours, donc pas de CNDA, pas de Cour nationale du droit d'asile. Voilà, il y a de grandes chances que sur les 300, une très très bonne partie obtient l'asile pour venir en France.
Ce qui n'a pas été le cas de tous ceux que vous avez donc pu rencontrer pendant ces 15 ans. On en vient à votre livre, Smaïn Lacher. Vous êtes sociologue et vous devenez en 99 juge assesseur pour le compte du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, détaché en France à la Cour nationale du droit d'asile. Un peu de vocabulaire, vous pouvez nous rappeler à quoi sert cette Cour nationale du droit d'asile?
La Cour nationale du droit d'asile, avant 2008, c'était la Commission des recours des réfugiés. Eh bien, c'est très simple. Quand quelqu'un demande l'asile, il demande l'asile à l'OFPRA. L'OFPRA accepte ou rejette. Et si il y a un rejet, le requérant peut faire recours. Et il fait recours à la Cour nationale du droit d'asile. Et là, nous sommes dans une configuration qui est complètement différente. À l'OFPRA, c'est un officier de protection et le requérant, face à face, avec l'interprète et une personne qui accompagne le requérant depuis de quelques années. Et à la Cour nationale du droit d'asile, le requérant se retrouve devant trois juges et il a le droit à un avocat.
Alors, on dit pas tribunal, je pense qu'on dit formation.
Non, surtout pas tribunal, pas parce que tout simplement il n'y a pas de coupable. Mm-hmm. Ce sont des gens qui demandent une protection internationale. Il y a des juges qui examinent la sollicitation du demandeur d'asile.
Donc vous avez été un de ces juges, hein, Smaïn Lacher, page 13. Un ami vous prévient avant que vous preniez ce poste. Tu n'es pas spécialiste en droit, t'inquiète pas, ce n'est pas ça qui est compliqué. C'est quoi qui est compliqué alors, Smaïn Lacher?
Ce qui est compliqué, c'est pour le requérant de construire un récit qui se tienne, d'être crédible, et précisément de faire croire à l'incroyable, et au juge en face, qui examine et qui doit se prononcer, eh bien, c'est de croire à cette histoire. Donc, d'un côté, il y a la construction d'un récit crédible, et de l'autre, le juge a à lui comme problème à résoudre celle de la croyance dans le récit du requérant. Dit-il vrai ? Est-ce que son récit est vrai ou faux? Est-ce qu'il faut y croire ou ne pas y croire?
Oui, parce que des persécutions, il faut les prouver. Il y en a souvent pas de preuves, pas de témoins. Ça s'est passé à des milliers de kilomètres. Des gens qui souvent parlent peu ou pas français. Donc c'est quoi? Oui. C'est l'intime conviction?
C'est pas seulement l'intime conviction. L'audition est extrêmement importante. La présence du requérant est extrêmement importante. Quand il vient, il doit convaincre les trois juges, la formation de jugement, qu'il a bien été persécuté. Mais attention, et c'est très important, pas seulement persécuté, c'est-à-dire attesté de persécution dans son pays d'origine, il doit aussi dire qu'il craint, s'il retournait chez lui, d'être persécuté. Et donc il n'y a pas simplement des craintes attestées, il n'y a pas simplement des persécutions attestées, il y a aussi des craintes possible en cas de retour dans le pays d'origine.
Ce qui ressort beaucoup au fil de ces pages dans votre livre, Smaïn Lacher, ce sont aussi tous ces doutes, toutes ces questions en fait, hein, qui pétrissent les juges à longueur d'audience.
Mais il n'y a pas plus difficile que de juger, il n'y a pas plus difficile que de juger dans ce type de configuration où les preuves sont faibles, en tout cas sont peu nombreuses. Le requérant ne parle pas la langue du pays d'accueil. Il ne sait pas souvent, même très souvent, qui sont les juges, qui est le juge qui représente le HCR, si le président est un professionnel du droit ou pas. celui qui est à sa droite, le juge assesseur représentant l'OFPRA, qui est-il, d'où vient-il? Tout ça, ce sont des inconnus qui, sans aucun doute, troublent la relation entre le requérant et les juges.
Vous dites aussi que les migrants racontent tous un peu la même histoire en fonction des réseaux de passeurs. Et
oui.
Une construction du récit?
Alors, ça, c'est vrai, il y a des récits qui s'achètent. Il y a des récits qui sont fabriqués pour la cause, pour la bonne cause, si je puis dire, en tout cas du point de vue du requérant. Mais surtout, c'est extrêmement difficile de produire un discours cohérent sur ce qui s'est passé, d'autant plus que les juges sont quand même à des milliers de kilomètres de la situation réelle qu'a vécu le requérant.
Ce qui ressort aussi, vous le dénoncez en tout cas, c'est la désinvolture de certains avocats. Vous parlez même de leur condescendance et ça vous a mis en colère, ça, Smaïn Lachère.
Oui, alors que ce soit très clair, nombreux sont les bons avocats. Ce que j'entends par bon avocat, c'est celui qui s'investit dans son activité et qui prend bien soin de construire avec le requérant des dossiers qui se tiennent. Pour moi, une désinvolture, c'est par exemple arriver la robe non boutonnée. Une désinvolture, c'est par exemple
le requérant. La main sur l'épaule.
La main sur l'épaule, le requérant est présent et l'avocat n'a pas signalé qu'il ne venait pas. Voilà quelques désinvoltures qui, moi personnellement, me mettre dans une incommensurable colère.
Ouais, Smaïn Lachère, vous parlez de beaucoup de choses. Hein. Il y a le chapitre 6 consacré aux femmes persécutées à part. On va pas pouvoir s'y étendre, il faudra lire le livre. Il y a l'asile quand même au cœur de ce livre. Vous le définisseriez comment l'asile aujourd'hui, vous, après toutes ces années?
L'asile, d'abord, c'est un lieu sacré où l'on peut se réfugier, se mettre à l'abri de celui qui souhaite vous assassiner. C'est un lieu protégé et protégé par un souverain. Il ne peut pas y avoir d'asile s'il n'y a pas de souverain qui protège l'espace sacré. Et surtout, il n'y a pas d'asile s'il n'y a pas de frontière. Aujourd'hui, à l'évidence, l'asile est quelque peu malmené et la tendance lourde, pour parler comme les démographes ou les économistes, la tendance lourde est plutôt à la restriction, est plutôt à la réduction de la demande d'asile. Le paradoxe, aujourd'hui, si on pouvait qualifier la question de l'asile, c'est qu'on demande de plus en plus souvent l'asile. Il y a de plus en plus de gens qui demandent l'asile, mais il y a de moins en moins de statuts accordés.
Page 53, et on terminera sur cette phrase, si vous le voulez bien. Étranger chez soi avant d'être étranger chez les autres. Voilà la condition première de l'exilé. Croire à l'incroyable chez Gallimard. Smaïn Lachère, merci beaucoup d'être passé.
Merci, je vous remercie
dans
beaucoup.
Le studio du 5-7 de France Inter. Au revoir.